Chronique du Pays Toulousain. Une émission proposée par les Toulousains de Toulouse avec Aline Thomazin et Sébastien Pénary.
Chers auditeurs, une nouvelle chronique du Pays Toulousain avec Aline Thomazin et Jean-François Ladjé. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Sébastien, bonjour tout le monde.
Et puis nous étions donc depuis un certain nombre d'émissions sur la période visigothe. Et puis maintenant, nous sommes à l'époque des Mérovingiens de la dynastie franque qui essayent d'avoir une même mise et de gérer, de s'emparer et d'organiser ce territoire toulousain. Et Jean-François va nous en dire un peu plus.
Oui, surtout, nous étions restés à la question de savoir qui habite cette Toulouse mérovingienne. Corsetée dans ses remparts, si j'ai bien compris.
Oui, Aline, la ville s'étant rétractée, on peut considérer qu'elle est vraiment à l'intérieur de son rempart antique. Alors, on a vu précédemment, on va dire, les institutions, hein, c'est-à-dire qui dirige la ville, l'évêque, le pouvoir, enfin le représentant du roi et son entourage. Donc, qui sont-ils, ces habitants de la ville mérovingienne? Alors, avec toutes les précautions d'usage, hein, on va rester modeste.
J'imagine que les sources ne sont pas très importantes.
Non, elles ne sont généralement pas très importantes, enfin, globalement, et en particulier pour Toulouse, elles sont vraiment très peu importantes. Alors, ce qu'on imagine, c'est que la plupart des Visigoths ont quitté la ville dès que les Francs sont arrivés. Les Francs, il y a un peu...
Ils ont été chassés, ça a été violent? Ou ils sont partis
Alors, déjà, entre la bataille de Vouillé en 507 et la prise en main de Toulouse, il se passe quasiment un an. Mmh. Voilà, un an pendant lequel le pouvoir visigoth avait déjà largement reflué vers Barcelone et puis la péninsule ibérique. Mais la population, en tous les cas la population... vraiment visigothe, elle est partie aussi. Alors, qu'il y ait eu des combats à Toulouse, très certainement, même en 500, enfin, un an après, on peut le comprendre. Mais l'essentiel de la population reste en fait la population gallo-romaine. Oui. C'est-à-dire que les Visigoths n'étaient pas si nombreux que ça, donc ils sont partis. Donc restent...
Les autochtones, finalement.
Les autochtones, oui, c'est ça, c'est-à-dire les descendants... d'une population gallo-romaine qui prospère à Toulouse depuis déjà pas mal de générations. Et finalement, de Francs à Toulouse, contrairement aux campagnes, parce que dans les campagnes, il y a des colons, on en avait parlé, hein, il y a pas mal de villages qui gardent d'ailleurs des toponymes. Voilà, donc il peut y avoir des familles importantes donc, qui détiennent des villas, des grands domaines fonciers, donc avec des colons. Donc ça, c'est dans les campagnes, mais dans la ville, encore une fois, à part l'évêque, proche du pouvoir royal, et avec son entourage, le comte et son entourage, qui résident peut-être pas tout le temps d'ailleurs dans Toulouse, finalement la population franque doit être assez peu nombreuse. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que globalement, et comme partout, cette population doit être nettement moins nombreuse que pour des périodes précédentes.
Ah oui, un nombre approximatif.
Ouais, un nombre parce approximatif, ni les historiens ni les archéologues ne considèrent disposer d'indices suffisants pour avancer un chiffre. Mais si on compare avec des villes mieux documentées, et notamment qui avaient des rangs de capitale franques, comme Paris ou Metz, il y a des chiffres qui avaient été annoncés de 15 à 20 000 habitants pour ces villes-là.
Oui.
Pour Toulouse, on est sans doute bien moindre. Si peut-être pour ne pas botter en touche, pour parler vulgairement, j'avancerai un ordre de grandeur moindre de celui qui était avancé pour la période gallo-romaine et sans doute aussi pour Toulouse, capitale visigothe. Donc si on considère qu'à l'époque c'était plutôt dans les 20 000, Là, je pense que sous les Mérovingiens, on est à moins de 10 000.
Oui, on comprendra que c'était une évaluation. Oui,
c'est un chiffre vraiment... voilà, c'est, encore une fois, c'est pour ne pas botter en touche.
Et alors, au Moyen-Âge, on parle souvent aussi, évidemment, des épidémies comme facteur de décimation des populations. Et là, est-ce que des épidémies apparaissent et quel impact ?
Sébastien, oui, tu as tout à fait raison. En 541... apparaît sur les rives orientales de la Méditerranée la peste, dite de Justinien, l'empereur d'Orient de l'époque, qui d'ailleurs est tombé malade, mais est guéri. Et c'est pour ça que les historiens appellent cette peste de Justinien pour la différencier de la peste noire du XIVe siècle. Elle apparaît à Marseille dès 543, par le port. J'avais dit, je crois, lors de la chronique précédente, que le grand itinéraire de trafic commercial, c'est celui qui, de Marseille, prend la vallée du Rhône et remonte vers les régions de pouvoir, les régions du Nord. Ensuite, par la vallée du Rhône et l'Auvergne, le fléau, il se répand. Il se répand à Lyon, Dijon, Reims, enfin toutes les grandes villes, notamment via les fleuves, jusqu'à Nantes, par exemple, ou jusqu'à la vallée de la Seine. Et Grégoire de Tours, dont j'avais parlé au tout début des chroniques consacrées aux Mérovingiens, donc dans ses écrits, évoque particulièrement Narbonne, donc grand port aussi méditerranéen, une population qui fuit, qui revient, qui est à nouveau décimée par la peste. On le sait aussi, on en a les traces en Catalogne, dans la vallée de l'Ebre, bref, Toulouse et Bordeaux sont probablement touché, même
impacté.
Si on n'en a pas de source sûre. Et comme les fléaux n'arrivent jamais seuls, avec la peste viennent aussi les famines, et notamment on sait que celle de 584 a ravagé l'ensemble de la Gaule, donc qui se retrouve fort dépeuplée à la fin du VIe siècle. Ce qui est un mouvement qu'on retrouve aussi en Orient, dans les Balkans, à Constantinople, c'est pas spécifique à la région. Mais ça veut dire que la population a singulièrement baissé par rapport au siècle précédent. Et qu'à un moment donné, elle se stabilise sans doute, et la démographie ne reprend qu'au tournant du 9e siècle, voire de l'an 1000. Quoi.
Donc ça veut dire toujours désordre économique, désordre sociaux, désordre politique autour de ces épidémies.
Oui, ça veut dire des mutations en permanence. Ouais. Sous les Mérovingiens, d'ailleurs les historiens, je pense à Dumézil, l'expliquent très bien, c'est-à-dire que même si la période est moins bien connue que d'autres en termes de sources, ce dont on est sûr, c'est qu'il y a une adaptation permanente, y compris des pouvoirs, pour gérer les territoires.
Alors, on reste au niveau de ces populations, de quoi est-ce qu'elles vivent ou qu'est-ce qui les fait survivre?
Qu'est-ce qui les fait vivre? Oui. Bonne question, Sébastien. Là, j'aurais tendance à dire au secours, messieurs, dames, les archéologues. À Toulouse, les fouilles archéologiques qui ont lieu montrent quelques ateliers de verre, de verriers. On les voit notamment vers le square de Gaulle, ou à l'ouest des arcades du Capitole, c'est-à-dire près des murs, c'est-à-dire dans des secteurs intramuros, mais qui sont sans doute déjà à l'écart de l'habitat. Voilà. Et là, on trouve donc, les archéologues ont trouvé des vestiges d'ateliers, des potiers, en dehors des murs, quelques fours à chaud, mais rien quand même qui ne traduise une activité... vraiment très prospère. Et comme on l'avait dit la fois précédente, et je viens de le rappeler, Toulouse est à l'écart des axes importants, notamment celui de Marseille, vallée du Rhône, et semble vivre plutôt localement, c'est-à-dire d'artisanat, de commerce local, et un peu animé par le fameux trio, l'évêque, le comte et la garnison qui est en ville. Voilà, donc plutôt du local.
Oui, donc une population qui est diminuée, mais qui va quand même vivre dans un cadre urbain qui demeure. Et ce cadre urbain, est-ce que c'est le cadre urbain qu'ont laissé les Visigoths, les Gallo-Romains? Est-ce que c'est un cadre urbain qui va être modifié?
Alors, oui, mais tout en sachant que cette modification était déjà à l'œuvre durant la période wisigothique.
Ah oui.
C'est-à-dire que même si Toulouse était une capitale, avec probablement un palais dont on a abondamment parlé, et des monuments, on voit des tracés de rues qui deviennent plus sinueux, c'est-à-dire des empiétements, peut-être moins de puissance publique, c'est-à-dire que quand on parle de la ville capitale, wisigothique, il faut quand même avoir à l'esprit qu'elle est toujours dirigée par un sénat municipal, qui est tenu par les grandes familles. Il semblerait que ce sénat soit maintenu. En revanche, avec l'arrivée des Francs, et le fait que les grandes familles aristocratiques qui tiennent le Sénat partent plutôt dans les campagnes, c'est ce qu'on remarque partout. Donc on imagine, avec un petit effort d'imagination, que c'est aussi le cas à Toulouse, que ces gens sont partis, donc que le Sénat ne fonctionne plus, et que du coup, ben, j'empiète sur la voie, je construis plutôt avec du bois, du torchis, dans ce qui rétrécit la rue, le voisin fait de même, etc. Donc il commence à y avoir ces transformations-là, du temps même des Visigoths. Et avec les Francs, alors là, on en est totalement sûr, les secteurs de la ville qui ont pu être fouillés montrent vraiment ces différences dans le paysage urbain, y compris dans le fait que la ville s'est rétractée par rapport à ce qu'elle était auparavant. Mmh. Il y a sans doute des pans entiers d'îlots urbains de la ville gallo-romaine qui subsistaient à l'époque wisigothe, qui tombent en ruine et ne sont pas reconstruits, qui sont, voilà, il y a 40 cm de terre, et 50 ans après, on y trouve des vergers, des vignes, etc. Donc c'est un paysage.
Donc c'est un habitat plus clairsemé, finalement.
Un habitat beaucoup plus clairsemé, oui, tout à fait. Donc si vous voulez, on en parlera plus en détail lors de la prochaine chronique, mais la ville a déjà changé d'aspect.
Bien, et puis l'archéologie va nous le montrer. On verra ça la prochaine fois.
Oui.